suis papa de deux enfants. Mon objectif là, c'est de faire le Vendée Globe 2024. La chance de faire déjà deux tours du monde à la voile en équipage. C'est largement accessible et t'es capable de le faire. J'aime bien relever des défis, donc je voulais relever celui-là. Donc handicap agir ensemble, c'est le, tu vois, c'est le fil conducteur quoi.
Quête de Globe, le podcast immersif de Sébastien Marceau, produit et réalisé par Audio Tactique.
Je tambourine un peu sur la coque et puis je me dis yes Seb, quoi, tu vois, c'est bon quoi, t'es allé la chercher quoi.
Franchement, là, cette Vendée Arctique, les Sables d'Olonne, on l'avait mis au calendrier comme une course d'avant-saison, c'est-à-dire des courses préparatoires. Et en fait, plus elle est avant, plus on s'est approché de l'événement, plus on s'est dit, ah, mais en fait, c'est un truc de dingue qu'on va faire, quoi. Là, c'est la deuxième course avec, avec mon Imoca. En revanche, c'est la première course qualificative en vue du Vendée Globe 2024. Et le matin du départ, franchement, on a la boule au ventre, quoi, parce que on part faire le tour, donc en solitaire, au départ des Sables d'Olonne, on part faire le tour de l'Islande, en laissant l'Islande sur la gauche, à bâbord. Et voilà, c'est une course totalement inconnue, c'est des passages assez engagés, notamment une possibilité d'iceberg dans le nord-ouest de l'Islande, et un couloir très étroit entre cette zone de glace et la côte islandaise. L'accueil du public au Sables d'Olonne a été à la hauteur de cet événement qui était beaucoup plus engagé, beaucoup plus important que ce qu'on avait pu anticiper. Clairement, cette sortie du chenal, elle a un parfum de Vendée Globe, quoi. C'est incroyable, quoi, de voir autant de personnes, des gens que je connais absolument pas, qui scandent mon nom, me font coucou, m'encouragent. Franchement, c'est vrai que c'est assez fou, quoi. Et c'est hyper sympa. C'est impossible de pas faire le rapprochement, de se dire, dans deux ans, je serai là avec mon bateau. Au départ du Vendée, et ce sera le très grand saut, quoi. Donc, ouais, forcément, on se projette là-dedans. Ouais. Des départs de courses importantes et de Vendée, j'en ai fait quelques-uns. Le plus récent, c'était avec Romain, où j'étais vraiment son binôme, et puis d'un coup, je descends du bateau, il se retrouve tout seul. De descendre du bateau, de se dire, je le laisse, et puis maintenant, pendant 90 et que ce jour, il va être tout seul. Ça, c'est poignant. Tout en se disant je veux être à sa place en 2024, pas à sa place mais je veux être à cette place en 2024. Et moi, il y a aussi une image qui m'émeut, c'est quand les bateaux disparaissent, tu vois, c'est-à-dire que t'as toute une agitation terrestre, t'as tout le monde qui vient encourager, t'as les bateaux assistance, t'as les bateaux suiveurs, t'as les partenaires, t'as les amis, la famille, et au bout d'un moment, ces bateaux peuvent plus suivre, et en fait, les voiliers, qui sont très grands au port, qui paraissent énormes, et ils disparaissent, on les voit plus, ils disparaissent derrière la ligne d'horizon, et là, ça y est, tu vois, on est tout seul à bord, quoi. Et moi, c'est, ouais, de voir les bateaux disparaître, je me dis, ah. Et donc quand je suis à bord, je le ressens, même ce moment où, tu vois, j'ai disparu par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le départ est donné, tu te poses dans ton siège de veille, tu souffles un coup, parce que toute la journée d'avant-départ, le départ en lui-même, toute la pression que ça induit, la sortie du chenal, même si elle est hyper sympa, c'est une journée hyper dense, quoi. Le départ, éviter les collisions avec les autres concurrents, avec les bateaux accompagnateurs. Et donc, à un moment donné, tout ça est parti. Quand t'as disparu derrière la ligne d'horizon, effectivement, moi, je me pose et je souffle un coup et je dis, ça y est, c'est parti, tu vas pouvoir faire du bateau, quoi. Le fait de pas être le bateau le plus rapide, franchement, autant quand t'es sur des bateaux qui sont identiques, c'est hyper frustrant, et puis c'est, comment dire, stimulant aussi, parce qu'il faut chercher la recette pour, tu vois, égaliser, éventuellement aller plus vite que les autres. Là, très clairement, il y a des bateaux avec lesquels je ne peux pas rivaliser. Donc moi, je fais de mon mieux et je m'étalonne par rapport aux bateaux qui peuvent être des bateaux référence pour moi. Et après, je me concentre en fait sur ma propre course, sur ma trajectoire. Et puis, tu vois, en n'étant pas forcément calculateur, en me disant, tu sais faire, fais ce que tu sais faire, fais le bien, sois exigeant vis-à-vis de toi-même. Et cette exigence que tu as lorsque tu es sur un foiler de dernière génération et la même exigence vis-à-vis de toi-même, bien que tu sois sur un bateau de 2006. En gros, c'est ça, quoi. Et de toute façon, cette envie de dépassement et de compétition, je ne peux pas la laisser de côté quand je suis sur l'eau, quoi. Donc naturellement, je m'engage comme ça, quoi. On n'avait pas beaucoup de classements sur la Vendée Arctique. On avait un classement toutes les 4 heures, sauf la nuit, donc ça ne fait pas beaucoup de positions. Ce qui est pas mal aussi, parce que ça laisse la place à du jeu stratégique par rapport à la météo. C'est-à-dire que quand on a des classements très réguliers, on a tendance un peu plus à se suivre, à observer la route des uns des autres. Et puis finalement, quand on a des classements moins réguliers, typiquement, sur un laps de temps de 4 heures, peut y avoir des choix stratégiques à faire. Donc, ça laisse moins de classements, ça laisse la place à plus de jeux stratégiques météo, quoi. Donc c'est presque plus sympa, quoi. Le contournement de la dorsale, donc cet anticyclone, donc c'est une zone où il y a très peu de vent, c'est toujours très aléatoire, parce que la météo est pas fiable, tout simplement. Donc il faut être très présent pour bien régler le bateau, s'extraire de la dorsale, et effectivement, une fois qu'on en est sorti et qu'on arrive à toucher ce vent de secteur ouest, on se rend compte qu'à une échéance de 4-5 jours, il va y avoir un coup de vent. On n'est pas vraiment certain de la force, de l'endroit, du timing, parce que ça dépend beaucoup de l'évolution de la météo et puis aussi de la vitesse à laquelle nous on va progresser. Mais on voit qu'il va y avoir un coup de vent, donc sur le bateau, tu prends les choses une par une. Tu te dis, j'ai la dorsale à gérer, je gère la dorsale, et je gérerai bien une fois que ça se sera passé. Et puis voilà, tu déroules les choses un peu une par une. Finalement, le fait de se surcharger de problèmes qui ne sont pas immédiats, ça pollue presque, quoi. Donc vraiment, moi, c'est... je prends les choses une par une, je gère la dorsale, et ensuite, je verrai la suite, quoi. La vie à bord, tout roule. Hein. J'ai eu la chance d'avoir une équipe qui a préparé le bateau vraiment aux petits oignons. Je dirais que sur l'avitaillement, moi, j'avais fait quelque chose de très, je dirais, habituel avec mes plats. Nanana. Et puis, Patrick, Mathilde et Matt, ils ont vu quels étaient mes petits péchés mignons à terre. Donc, ils n'ont pas pu s'empêcher de m'en glisser dans mes sacs de nourriture à bord, donc je me suis retrouvé avec un bon stock de sneakers notamment, je profite de leur générosité lors de mes repas et de mes encas, quoi. Et donc effectivement, j'avais embarqué une bouée météo à larguer qui sert à améliorer la connaissance météo, et il fallait la larguer par 56 degrés nord. 56 degrés nord, c'est nord de l'Irlande, globalement. Et en fait, j'ai un peu anticipé ce que les conditions météo allaient se dégrader. Et j'en ai profité. Voilà, moi, ça fait une petite scène de vie à bord. C'est-à-dire que le quotidien du marin peut être un peu routinier. Et donc là, j'avais mon occupation, quoi. Il fallait que je fasse la vidéo, que je puisse fixer la caméra au bon endroit pour me mettre en scène, et puis dédicacer cette bouée à l'Institut médico-éducatif Armor à Saint-Herblain, dont six jeunes ont participé au premier stage de voile inclusif qu'on a mis en place sur l'île d'Ars au mois d'avril. Et donc voilà, moi, ça m'a fait mon petit divertissement à bord, et puis j'étais très content de les nommer, parrain. Alors ils n'avaient pas accepté parce que j'ai pris l'initiative, mais je crois que ça leur a fait plaisir parce qu'on a échangé il y a 5-6 jours là, enfin un peu de temps après l'arrivée de la course, et en tout cas ils étaient rayonnants à l'idée de parler de bateau, et donc c'est hyper chouette, quoi. Et donc moi j'ai eu ça m'a pris quoi 2-3 heures hein, de lancer cette bouée en leur dédicaçant, puis d'envoyer une petite vidéo, et ça m'a fait une distraction à bord avant le gros temps, je dirais, quoi. Alors effectivement, à un moment donné, on a vu que la météo allait vraiment être mauvaise, avec du vent fort et de la mer. Il y avait deux zones de vent fort différentes, une qui nous empêchait vraiment de passer, de contourner l'Islande côté est, parce que c'était un vent de nord très très fort, genre 50 nœuds, c'est à peu près 100 km/h moyen avec des rafales. Et une autre zone de vent forte, qui était plutôt du L de secteur ouest, à peu près les mêmes forces, qui initialement devait être un peu plus sud, quoi, puis qui en fait s'est décalé vers le nord, et donc on a subi des conditions assez difficiles, quoi, avec de la mer à peu près 5 mètres. Donc 5 mètres, ça, voilà, ça commence à être des tailles de vagues assez imposantes pour ces bateaux-là. Et donc, comment on gère ça ? On gère ça en bon marin, avec clairement la performance à ce moment-là passe, la performance passe au second plan, et l'idée c'est juste de rallier une zone de sécurité qui avait été identifiée au sud de l'Islande, qui nous abritait du vent, en gérant le bateau en bon marin, quoi. Vraiment, l'aspect performance est relégué un peu au second plan à ce moment-là, quoi. Prendre soin de soi, prendre soin du bateau, essayer de rien casser et tenir, quoi. Tenir parce que à la fois c'est dur, les conditions qu'on rencontre sont dures, mais en fait on n'a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire parce que faire demi-tour, donc quelque part renoncer, c'est se mettre dans des conditions encore plus dures. Donc vraiment, pour moi, il n'y a qu'une seule route possible, c'est d'aller se mettre dans cette zone où il y a un petit peu moins de vent à côté de l'Islande. Je suis trempé, je suis frigorifié parce que tout est moite, il fait humide, il fait froid. Donc déjà j'ai froid. J'ai froid, et après ouais, j'ai de l'appréhension parce qu'on est dans une situation vraiment inconnue, quoi. C'est-à-dire qu'on va proche d'une côte dont on a très peu d'informations, dans une zone où on ne sait pas ce qu'on va faire initialement. On a d'abord une modification de parcours, puis une neutralisation de parcours avant une fin de parcours, mais entre tous ces décisions qui sont prises par l'organisateur à terre, nous on est dans l'inconnu, et à chaque fois il y a un laps de temps assez long, donc on est vraiment dans l'inconnu, en fait on ne sait pas ce qui va se passer, et on est forcé de progresser vers cette zone, quoi. Donc il y a ça génère de l'appréhension, à terre, enfin en mer, à terre. Et ouais, c'est très inconfortable. Il y a aussi beaucoup de fatigue, parce que dans ces conditions-là, c'est difficile de dormir, même si on a le temps de dormir, de réussir à s'allonger, trouver le sommeil. Tout ça en ayant froid, c'est difficile. Donc la fatigue s'ajoutant par là-dessus, on perd un peu notre capacité de jugement. Enfin, en tout cas, je perds un peu de ma capacité de jugement. Je le sais, hein, je le perçois, puis je le vois dans les échanges que j'ai eus avec mon équipe. Avec Eric Bélion, on a failli se rentrer dedans. En fait, on était proches l'un de l'autre. Et lui a voulu changer de cap, donc virer de bord. Et en fait, à la fin de sa manœuvre, il a perdu le contrôle de son bateau. Et il y a eu une survente, il y a eu une risée, une rafale à ce moment-là. Et donc, il a perdu le contrôle de son bateau. Moi, ça, je ne l'ai pas vu en direct. Par contre, j'entends à la VHF, donc à la radio du bord, j'entends « Seb, Seb !» Et puis après, un son vraiment brouillon, quoi. Et donc je sors, je regarde, je pense qu'il est 2h du matin, mais on est par 60 degrés nord, donc il y a encore de la luminosité, enfin il y a beaucoup de luminosité même, et puis ça se répète à la VHF, et là je vois Eric en fait, et il fonce vers moi, quoi. Et donc au début je pense que je change un peu ma route, je passe devant lui, et puis lui il rechange sa route, et donc c'est de nouveau on se rentre dedans, donc je rechange la mienne, et en fait sur cette dernière manœuvre où en fait c'est pas si facile de changer la route du bateau parce qu'il y a quand même pas mal de vent, le vent est instable, j'essaye de faire tourner le bateau pour l'éviter, et en fait j'ai mon safran, donc le gouvernail, qui remonte et qui sort de l'eau, et c'est un peu comme si on a un pneu qui explose, quoi, en fait, quoi. Et donc je perds partiellement le contrôle du bateau, et là on est face à face, quoi. Et donc la seule solution qui me reste, c'est de tourner le bateau à 180 degrés de manière brutale, quoi, en fait, pour éviter la collision, quoi. et me mettre en fait dans le même sens que lui, quoi. Et donc c'est ce que je fais, mais ça implique que bah en sortie de cette manœuvre, je vire de bord de manière volontaire, mais à contre, c'est-à-dire les voiles complètement dans le mauvais sens, tout dans le mauvais sens. Je me retrouve avec le bateau couché sur l'eau. Couché sur l'eau, les voiles qui sont sur le pont qui flottent, les grands voiles, les voiles à contre, le mât qui est tenu par la mauvaise bastac, enfin voilà, tout un bazar, le safran qui est toujours relevé parce qu'il est remonté de manière intempestive, mais au moins on a évité la collision. Donc le pire a été évité, quoi. Ben juste après la frayeur, déjà, je me précipite pas, tu vois, je regarde. Je dis, dans quel état est le bateau? Est-ce que quelque chose a cassé? Est-ce que quelque chose n'a pas cassé? Tu vois, j'essaye de faire un rapide état des lieux. Je vois que j'ai rien cassé. Et du coup, je dis, dans l'ordre, qu'est-ce que tu as à faire pour remettre le bateau en route? Parce qu'il faut aller couper cette ligne d'arrivée, quoi, tu vois. Et je peux pas rester comme ça des heures, donc je fais les choses à nouveau une par une. Donc tu vois, je cherchais ma clé à molette et j'ai cherché à ma clé à molette pour pallier à ce safran qui est remonté, parce que pour l'heure à enclencher, j'ai besoin de tourner une petite pièce avec ma clé à molette. Je commence par ça, puis je descends mon safran. Ensuite, je vais gérer mon mât parce qu'il est tenu par un mauvais câble. Il faut que je change ce câble, donc je change ce câble. Ensuite, je vais remettre ma quille, qui est ce contrepoids qui est sous le bateau et qui gère la stabilité du bateau. Je vais la remettre à l'endroit, entre guillemets, parce qu'elle était prévue pour être utilisée sur l'autre bord. Donc, je la remets à l'endroit pour remettre le bateau à plat. Là, le bateau se redresse un petit peu. Je fais passer ma voile d'avant, qui, elle, aussi était prévue pour être sur l'autre bord. Je la fais passer du bon côté. Et là, je recommence à pouvoir avancer, à être en route. Et tu vois, tout ça, ce que j'ai mis peut-être 45 secondes à te dire, ça m'a pris 35 à 40 minutes dans la réalité. Alors comment se passe cette arrivée? Effectivement, c'est très bizarre. Donc on nous donne juste deux coordonnées géographiques, deux points situés dans l'eau, quoi. Et il faut couper la ligne droite qui rejoint ces deux points, quoi. Et c'est vrai que sur une arrivée de course, traditionnellement, on a toujours, tu vois, un bateau comité qui vient à proximité de cette ligne, qui prend la date et l'heure au moment où on coupe la ligne, qui fait un petit pouette au moment où on coupe, et puis qui nous félicite, quoi, tu vois. Et là, franchement, en fait, tu coupes la ligne, il se passe rien. T'es tout seul sur le bateau, il se passe rien, et tu coupes une ligne virtuelle. Et puis, malgré tout, moi, je me parle à moi-même, quoi. Je me dis, putain, bien joué, Seb, quoi, tu vois. Bien joué. T'es arrivé là-haut, t'as coupé la ligne, ça signifie que t'es quali, t'as fait ta première course qualificative au Vendée Globe. Enfin, tu vois, déjà, je suis content, quoi. Je suis dans la descente du bateau, je regarde l'ordi, et tu vois, je tambourine un peu sur la coque, et puis je me dis, yes, Seb, quoi, tu vois, c'est bon, quoi. Tu as coupé, quoi. T'es allé la chercher, quoi. Voilà, c'est tout ce que ça donne. Les minutes après, il faut que je contacte la direction de course pour avoir l'autorisation de déplomber mon moteur. Mon moteur est plombé. Et du coup, pour pouvoir manœuvrer dans une zone un peu restreinte plus facilement, je me dis, faut que je déplombe mon moteur. Parce qu'il y a tout, on a quasiment l'intégralité de la flotte qui est en attente, donc on est un peu tous les uns à côté des autres à attendre. Et donc en solitaire, le fait d'avoir le moteur, c'est plus facile de gérer ces bateaux-là, quoi. Donc après, voilà, je suis avec la direction de course, et on fait tout le process pour qu'il m'autorise à déplomber le moteur. Le retour, en fait, ça faisait hyper longtemps que ça ne m'était pas arrivé de passer autant de temps en mer, en solitaire, en n'étant pas en course. Et tu vois, j'ai retrouvé des plaisirs à naviguer que, en fait, je n'avais pas eu depuis hyper longtemps, quoi. Et donc ça, c'est tu vois, à un moment donné, je me suis posé dans ce même siège de veille dont je parlais tout à l'heure, et j'ai regardé les oiseaux dans le sillage. Il y avait, quand on était là-haut, il y avait plein d'oiseaux, pas vu beaucoup d'animaux dans l'eau, mais par contre, j'ai eu beaucoup d'oiseaux.
Et je me suis posé, je me souviens, sur le retour dans le siège de veille, et j'ai regardé les oiseaux, je me suis dit, c'est cool aussi de pouvoir avoir le temps de faire ça, quoi, juste d'apprécier, quoi, tu vois. Et voilà, je me souviens très bien, j'ai apprécié un lever de soleil de ouf au même temps où il y avait un coucher de lune. J'ai vu un astéroïde passer à travers le ciel, un truc de dingue, et qui est parti d'un côté du ciel et qui a atterri de l'autre. Ça a duré, je sais plus, ça a bien duré une minute. Ça faisait des années que je n'étais pas retrouvé dans ce type de navigation et c'était. Ça a des côtés sympas. Eh ben alors, depuis l'arrivée de la Vendée Arctique, on a entamé une grosse phase d'entretien du bateau. Très rapidement, on a dématé le bateau pour entretenir le mât. Et on va très bientôt sortir le bateau de l'eau pour entretenir la coque, en fait. Et voilà, ça, c'est ce qui va se passer pendant tout l'été, jusqu'à une remise à l'eau courant août. Bah pour la reprise des navigations au mois de septembre, et puis ensuite ça va la route du Rhum va arriver extrêmement rapidement, voilà une période d'entretien du bateau, et on en profite aussi pour construire la suite, notamment avec Handicap Agir Ensemble, et comment on va réussir à valoriser le fonds de dotation et l'adapter de l'Or Atlantique pendant la période du village de la route du Rhum. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et à passer nous voir. Passez nous voir à Port-la-Forêt où le bateau est basé, et puis lors des prochains événements, notamment le village de la route du Rhum. Merci à toutes et à tous.